Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un de mes passe-temps préférés, c'est la lecture. Donnez-moi un bon bouquin et vous me perdez pendant des heures, voire des jours. Donc maintenant, vous savez comment vous débarrasser de moi, si jamais. Mais alors, si pour moi, il y a bien un livre qui va sortir du lot, c'est la Bible. Ça fait cliché ? Désolée, hein, en même temps, on est un peu là pour parler de ça. En fait, c'est vraiment mon livre préféré, parce que je trouve la Bible tellement variée qu'en fait, je m'en lasse jamais. Elle contient des histoires, ça fait un peu roman. Elle contient des enseignements de toutes sortes, de la poésie. Elle contient des réflexions, des conseils pratiques pour ma vie. Et puis, c'est sans parler de tous les différents styles d'écriture liés aux auteurs différents. Du coup, jamais je m'ennuie. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est qu'elle n'hésite pas à nous montrer les personnages sous tous leurs angles. En fait, elle les présente même d'ailleurs pas toujours sous leurs meilleurs jours. Je pense à ce pauvre David qui voit son histoire avec Bathsheba relatée. Maintenant, tout le monde entier, il est au courant. Et ça, c'est qu'un exemple. Il y en a plusieurs autres. Ouais, la Bible est sans concession. On y voit ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, mais aussi ce qu'il y a de pire. Elle n'essaye pas d'enjoliver les situations. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, elle ne va pas déroger à cette règle. Donc c'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire notre passage du jour. Dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 9 à 22. Donc 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 à 22. Oui, vous pouvez suivre là-vous aussi. Je vais lire dans la seconde 21. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescent est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Paul ne fait pas illusion et il présente les choses telles qu'elles sont, les bonnes comme les mauvaises. On voit les collaborateurs qu'il félicite un peu et ceux qui lui ont fait faux bond. Nous sommes à Rome en 66 après Jésus-Christ et Paul n'en a plus pour très longtemps et il en est bien conscient. Et comme toute personne sur le point de mourir, il lui semble important de livrer ses dernières recommandations à Timothée. des recommandations pratiques. Ce genre d'informations qui pourront lui être utiles quand Paul ne sera plus là. En lisant ce texte et en le travaillant, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, ce passage nous offre l'occasion de redécouvrir Paul et nous permet d'entrevoir sa personnalité. Derrière tous les détails pratiques qui sont énoncés se cache en fait un leader spirituel. Et ça va être mon premier point. Mais aussi un homme vulnérable. Et enfin, un homme de foi. Un leader spirituel, un homme vulnérable, un homme de foi. À première vue, les versets 9 à 13, donc le premier bloc, ressemblent un peu à une checking list. Tâche de me rejoindre, Démas m'a abandonné, prends Marc, amène-le avec toi, rapporte-moi le manteau et surtout les parchemins. En fait, pour tout vous avouer, ça me fait un peu penser aux listes que je me fais juste avant de partir en voyage. L'appareil photo, c'est bon. La trousse de toilette, c'est bon. Les clés, c'est bon. Un foulard, ah oui, c'est bon, j'y ai pensé. Oh mince, il va falloir que j'appelle quelqu'un pour relever le courrier. Ça vous arrive pas à vous ? Levez les mains si vous faites comme moi, que je me sente un peu moins seule. Bon, ça va. On est normaux. Le but, quand on se fait ce petit genre de liste, c'est de ne rien oublier d'important, de primordial, qui nous manquerait et qui serait vachement embêtant. Oublier de prendre son parapluie n'a rien de catastrophique en soi. Par contre, oublier d'éteindre la lumière de la salle de bain, ça risque de s'avérer salé sur la facture d'électricité. Dans une toute autre mesure, Paul fait donc aussi un genre de checking list avant son dernier voyage. Vu comme ça, aucun des éléments n'a l'air vraiment prioritaire. Mais pour Paul, il est nécessaire de transmettre ces informations. Dans ce texte, on note qu'il y a une notion de transmission très présente. Imaginez-vous, c'est la dernière lettre de Paul. Sa dernière occasion de transmettre à Timothée ses instructions. Rappelez les bases. Paul veut que son fils spirituel ait toutes les billes en main. Car en son absence, c'est Timothée qui va reprendre le ministère. Celui de prêcher l'évangile malgré le contexte défavorable. Paul donc, va lui faire un point sur la situation actuelle des choses. Et en fait, cette checking list, elle va être assez révélatrice du tempérament leader de Paul. En la lisant, on apprend plusieurs choses sur lui. On apprend, par exemple, que Paul fait partie d'une équipe et la connaît. Tel un général de guerre, Paul dirige ses troupes depuis sa prison. Oups là. Il sait sur qui il peut compter, ou pas, sur des masses, de toute évidence. Il sait où chacun se trouve. Démas est à Thessalonique, Crescent en Galatie, Tite en Dalmatie, etc. La liste est longue. Il connaît les dons et les compétences de chacun et sait quelle est leur place la plus stratégique. En l'occurrence, Marc doit accompagner Timothée à Rome, car, je cite, « il m'est utile pour le ministère ». Tychique, quant à lui, va être envoyé à Éphèse par Paul, sûrement pour remplacer Timothée, qui sera auprès de Paul. Paul n'est pas qu'un leader donneur d'ordre. Il n'est pas distant. Il n'est pas en dehors du champ de bataille. Il fait corps avec son équipe. Et il est lui-même sur le front. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit en prison pour sa foi en témoigne. On apprend aussi donc que Paul, il a un côté paternel. Il est plein de bienveillance envers ses collaborateurs et ça transparaît en fait dans chacune de ses lettres, pas seulement ici. Ici, on va voir qu'il veut faire en sorte que tout se passe bien pour Timothée, pour que voilà, il ait bien les choses en main. Il pense à chacun de ses collaborateurs, il pense à Trophime qui est malade à Milet. Il n'oublie pas de le mentionner. Donc Paul, en tant que leader, fait partie d'une équipe et la connaît. Il a un côté paternel, bienveillant. Et il sait revenir sur ses jugements. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Saviez-vous que Marc n'a pas toujours été dans les petits papiers de Paul ? Qui est au courant ? Ah ouais, bon ben je sais bien, je vais vous en apprendre une bonne. Petit rappel. Précédemment, dans les derniers épisodes des voyages missionnaires de Paul, Paul, Barnabas et Marc voyagent ensemble depuis pas mal de temps. Mais alors qu'ils sont en Asie mineure, Marc abandonne l'équipe et rentre à Jérusalem. La pilule ne passe pas pour Paul. Plus tard, Marc réapparaît et veut réintégrer l'équipe. Mais Paul, il n'est pas de cet avis. Du coup, Paul et Barnabas ont un désaccord, se séparent et partent chacun de leur côté. Fin de l'histoire. Mais non, pas fin de l'histoire. C'était pour voir si vous suiviez. En fait, là, dans notre texte, on voit que Paul et Marc, ils sont à nouveau amenés à collaborer ensemble. Après tout, Marc semble être utile pour le ministère. Dans le travail en équipe, il est donc important de savoir mettre de côté ses rancunes et savoir laisser des secondes chances en vue de foncer vers un même but. Paul a toujours eu un tempérament de leader. Mais de leader persécuteur, il est passé, après sa rencontre avec Jésus, à leader spirituel. En prenant exemple sur son maître, Paul est devenu un homme qui tient compte des membres de son équipe, qui fonce avec eux dans un même but, qui les connaît, qui les aime, qui apprend à donner des deuxièmes chances. Moi, je trouve ça fou. Complètement fou l'effet que Jésus peut avoir sur chacun de nous. Dès qu'on lui laisse la place dans nos vies, il va la prendre, la transformer, nous offrir de nouvelles perspectives, élargir notre champ de vision et nous amener peu à peu à lui ressembler. Quelle chance ! Que l'on soit plutôt leader ou disciple, nous aujourd'hui dans l'Assemblée, gardons en tête le modèle par excellence, Jésus. En naissant, vivant, mourant comme un homme, il s'est associé à nous. Il n'est donc pas un maître distant. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos soucis du quotidien, les épreuves, les tentations qui sont sur notre chemin. En bon leader, il nous connaît personnellement. Il prend soin de nous et nous offre la plus belle des deuxièmes chances qui soit, d'être réconcilié avec son Père et de pouvoir avoir la vie éternelle. Et ça, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré notre infidélité. Ça, c'est un homme qui donne envie d'être suivi. Paul n'a rien inventé. Il se calque seulement sur Jésus. Et il espère que Timothée fera de même. Que Timothée suivra son exemple. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire pareil. À nous calquer sur Jésus, le modèle par excellence. Alors je vous laisse juste cette piste de réflexion. Je nous laisse cette piste de réflexion. Quel genre de leader suivons-nous ? Celui qui va pointer le doigt sur lui, sous couvert de belles paroles, ou celui qui va pointer le doigt sur Jésus, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actes. Quel genre de leader suivons-nous ? Dans cette dernière lettre à Timothée, Paul est loin de ressembler à un leader inébranlable, tout-puissant. Au contraire, il apparaît comme un noble vulnérable. Oui, on voit que Paul n'hésite pas à montrer sa fragilité. Il dit à Timothée qu'il a très envie de le revoir, non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois dans toute la lettre et uniquement deux fois dans le passage qu'on vient de lire. C'est dire. Il exprime sa solitude, son sentiment d'être abandonné, d'être rejeté. Il mentionne les attaques d'Alexandre qui l'ont vraiment blessé. Paul exprime ses pensées. Il se sent rejeté, abandonné, vulnérable. Je pourrais m'arrêter là et en conclure, pour cette partie du moins, que c'est sans doute la relation de confiance entre Paul et Timothée, entre le père et le fils spirituel, qui fait que Paul se livre autant, qu'il se met à nu. Mais en fait, je pense que ça va beaucoup plus loin. Voyez-vous, Paul était quelqu'un d'authentique. Il n'y a qu'à le voir à son franc-parler, il n'y allait pas toujours par quatre chemins. Quand il aimait quelqu'un, il le disait. Quand il n'aimait pas quelqu'un, il le disait. Authentique. Et il était capable de s'examiner, de se remettre en cause. Il parlait aussi bien de ses forces, de sa légitimité en tant qu'apôtre, que de ses limites et de ses faiblesses. On le remarque ici, bien sûr, dans la suite de notre texte. Mais en fait, on le voit aussi dans plusieurs de ses lettres. Paul n'hésite pas à se révéler au grand jour, à montrer qui il est, à montrer ses forces et ses faiblesses. Il offre aux autres un regard honnête sur lui. Il nous mentionne dans les différentes lettres, par exemple, toutes ses luttes, que ce soit spirituelles, dans Romains 7, ou que ce soit physique, son épine dans la chair. Je pense qu'on a une leçon à apprendre de Paul. La nécessité d'être authentique, d'être vrai dans notre relation, dans nos relations. Prêt à s'examiner nous-mêmes, prêt à offrir une vision honnête de nous-mêmes aux autres. Et alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, qu'est-ce que c'est compliqué de montrer mes faiblesses ? Qu'est-ce qu'on a du mal à tout simplement avouer quand ça ne va pas ? Et alors, je trouve que pour les chrétiens, c'est encore pire. Comme si le jour où nous sommes devenus chrétiens, on a signé un contrat qui stipule « Vous aurez toujours le sourire » et vous n'aurez pas le droit d'être triste, ou du moins de le montrer. C'est peut-être pas partout pareil, hein. Mais j'ai rencontré ce genre d'attitude très souvent. Ne pas être triste, c'est ce vers quoi porte notre espérance. C'est ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Là, en effet, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie, plus de douleur. Toutes ces choses n'existeront tout simplement même plus, on n'y pensera pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est encore dans un monde rempli de ces choses, des luttes, des épreuves. Et oui, il nous arrive d'être éprouvés. Et oui, il nous arrive d'avoir le moral à plat, de se sentir seul ou rejeté, comme Paul. Et il n'y a rien de mauvais à ça. Alors, mes amis, pourquoi avons-nous tant de mal à faire tomber le masque? Pourquoi avons-nous tant de mal à montrer notre vulnérabilité? C'est quoi? C'est la honte? La culpabilité? L'orgueil? La peur d'être jugé? Je vais vous raconter quelque chose de pas facile. Quand j'étais à l'IBN, donc l'Institut biblique de Nogent, pour les intimes, j'ai fait un burn-out. J'avais plusieurs responsabilités, en plus de mes études qui étaient plus qu'accaparantes. Je dormais à peine à cause du stress. Et du coup, j'étais tout le temps d'humeur électrique à fleur de peau. En fait, au lieu de me calmer, comme ça aurait été sage de le faire, je repoussais toujours plus loin mes limites. Toujours plus loin. Au final, je me sentais extrêmement fatiguée, tant physiquement que psychologiquement, que spirituellement. Et j'étais vide. Vidée. Plus le temps passait, plus j'allais mal. Moins je lisais ma Bible, et plus ça empirait parce que ça rajoutait à mon malaise. Je me culpabilisais. Et alors ma pire épreuve, c'était le dimanche matin, après le culte. Vous savez, « Salut, ça va ?»« Oui, et toi ?»« Ah bah oui, oui, ça va, bon, je suis un peu fatiguée, mais rien d'alarmant, quoi. » Rien d'alarmant, ouais. Mon œil. C'était pas faux, hein? Et c'était pas tout à fait honnête non plus. Et pour moi, c'était une lutte quotidienne que je vivais toute seule. Pff, quel hypocrite! Tu fais des études bibliques? T'es même pas capable de lire ta Bible? Les gens t'énervent? T'as envie de pleurer tout le temps? Bravo Laura, bel exemple! Si moi je me comprenais pas, ben, je voyais pas comment les gens ils pouvaient me comprendre. Du coup, je disais rien, je me suis tue, et ça s'est pas amélioré. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, enfin où j'ai accepté plutôt que j'allais pas bien, que je l'ai verbalisé, j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à ma famille. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sortir du cercle vicieux. Alors, bien entendu, on a tous des histoires différentes. Je dis pas que, voilà, on est tous appelés à passer par ce genre d'épreuve. Mais ce que je veux souligner là-dedans, c'est que je suis vulnérable. Paul était vulnérable. Nous sommes vulnérables. Nous sommes tous fragiles avec des failles, des limites, des faiblesses. C'est comme ça. Nous vivons dans un monde empli, rempli de péchés. Et on est encore loin de la perfection. Alors quoi, maintenant on déprime tous et voilà, merci Laura, t'as plombé l'ambiance. Non, il y a une espérance là-dedans parce que oui, nous sommes vulnérables, mais ne pas le montrer, c'est se priver intentionnellement du secours que Dieu veut nous offrir. Ne pas montrer qu'on est vulnérable, c'est se priver intentionnellement du secours que Dieu veut nous offrir. Que ce soit au travers de sa parole, de son esprit, des frères et sœurs. Paul, lui, n'hésitera pas à demander à Timothée de le rejoindre. Son ton est urgent, il a besoin de lui. Et il n'hésitera pas non plus à exprimer ses sentiments négatifs. Mais là-dedans, je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes vulnérables, oui, mais nous appartenons à un Dieu qui ne l'est pas. Devant ces épreuves, nous voyons un Paul qui se révèle être un homme de foi. Il va chercher son secours et sa délivrance en l'Éternel seul. Ça me fait penser à un certain psaume, un psaume 121. Vous pouvez le dire avec moi, la première partie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Paul mentionne ses amis, entre guillemets, qui ne voulaient pas être assimilés à lui en tant que chrétien. Du coup, ils l'ont tous abandonné, ils l'ont laissé aller en jugement tout seul. Débrouille-toi. Face à ce rejet, je trouve que Paul réagit d'une manière bien surprenante. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Moi, à sa place, j'aurais été « What ? Sérieux ? Vous m'avez abandonné là ? Vous dites que vous êtes mes amis, ça va pas ?» Quand il annonce que Démas l'abandonne, on sent qu'il y a de l'amertume dans son ton. Quand il parle d'Alexandre le forgeron, alors là, en fait, n'en parlons même pas. Dois-je vous rappeler qu'en 1 Timothée, Paul livre carrément Alexandre à Satan pour son attitude. Donc il n'y va pas de main morte, quoi. Et là, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Pourquoi tant de sérénité face à la lâcheté de ses collaborateurs? En fait, Paul est conscient que cet abandon a servi à des fins plus grandes. Je m'explique. Au travers de cette épreuve, Dieu n'avait plus personne autour de lui sur qui compter. Il n'avait que Dieu, seulement Dieu. Et Dieu, au travers de cette épreuve, a pu révéler sa grandeur. Il a fortifié Paul, il l'a soutenu et il lui a permis d'annoncer clairement l'Évangile. C'est pour sa gloire que Dieu a fait tout ça, pour que Dieu soit glorifié, qu'il soit connu de tous. Cet épisode, en fait, nous apprend deux choses. Premièrement, Dieu peut se servir de n'importe quelle situation, même les plus désespérées, pour faire son œuvre. Dieu peut se servir de n'importe quelle situation, même désespérée, pour faire son œuvre. Est-ce que vous y croyez? Ah bah, ça a caché votre conviction, hein. Est-ce que vous y croyez? Deuxième chose qu'on apprend, les hommes sont faillibles, mais Dieu ne l'est pas. Délaissé, Paul replace Dieu au centre. Et il choisit de fixer son regard sur lui seulement. Son seul secours et sa seule force proviennent de l'Éternel. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sacrée mise en pratique. Il ne rime donc à rien de chercher à puiser nos propres forces en nous-mêmes ou chez d'autres personnes autour de nous. Seul Dieu peut nous fortifier efficacement et parfaitement. Alors, est-ce que du coup ça veut dire qu'on doit faire cavalier seul maintenant ? Non. Car Dieu, il peut nous fortifier de bien des manières. Il n'est pas limité. Et donc, il peut aussi se servir de nos frères et sœurs pour nous épauler quand vient l'adversité. Mais il reste notre premier secours. Dans son commentaire de la deuxième lettre à Timothée, Samuel Benetro note, et je cite, « Paul juge bon de rappeler où se trouve la force indispensable. Dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Cette aide est disponible, encore faut-il le vouloir ou s'y abandonner. » Un leader spirituel, un homme vulnérable, un homme de foi. Pour conclure, ce passage nous rappelle qu'au-delà du leader charismatique, Paul était un homme, avec ses forces et ses faiblesses, entouré de collaborateurs humains, avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais Paul était surtout un homme qui a choisi de placer sa foi en un Dieu infaillible, un rocher qui le fortifie et lui permet de tenir bon. Dieu a délivré Paul de maintes situations qui pouvaient sembler désespérées. Cette fois-ci, nous connaissons la fin de l'histoire. Pour autant, Paul, jusqu'au bout, ne perdra pas espoir en Dieu. Sa force est en lui. Sa délivrance est en lui. Même s'il sait qu'il va mourir. Peu importe ce que peuvent lui faire les hommes, il voit plus loin que sa simple vie terrestre. Il voit déjà le moment où Dieu va l'accueillir à bras grands ouverts dans son royaume et qu'il n'aura pas à rougir, car il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Du coup, par ce témoignage, nous aussi nous sommes invités à porter un regard d'espérance sur les situations qu'on traverse. Cette espérance nous permettra de voir au-delà des préoccupations du quotidien. Cette espérance, elle nous conduit toujours plus à nous attacher à Dieu. C'est là, en lui et dans sa parole, que nous trouverons notre délivrance. Alors avec le psalmiste, nous pouvons proclamer « Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen.